18-19, le magazine.
Bonsoir, c'est En de Noir, l'émission sur l'actualité du polar, présentée par Corinne
et Jacques. Bonsoir à tous, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous fêtons une naissance. En fait, une naissance d'une nouvelle maison d'édition, qui est, ce me semble, entièrement consacrée au roman noir. Cette nouvelle édition s'appelle Moisson Rouge, et nous allons en parler plus longuement. D'abord des premiers livres parus, puis ensuite des différentes options que vont choisir l'équipe éditoriale de cette nouvelle édition. Et pour en parler, on va bientôt avoir avec nous Judith Vernant. Judith Vernant, bonsoir.
Bonsoir.
Je vais vous laisser vous présenter parce que vous êtes une toute jeune recrue du roman noir, donc on vous connaît pas beaucoup.
Absolument. Alors, je suis une ancienne de chez Hachette Littérature, où j'avais d'abord souhaité monter une collection de romans noirs. Et puis finalement, je me suis lancée toute seule, pas vraiment, avec une mécène et deux acolytes, dont Hervé Delouche, qui est quand même beaucoup plus connu que moi dans le milieu du noir, dans l'aventure Moisson Rouge. Voilà, Moisson Rouge, qui était déjà une collection à l'origine chez Agnès Viennot-Noésie, il y a quelques années. Voilà.
Et donc, justement, vous venez de donner le titre Moisson Rouge. Donc, pourquoi ce titre? Je suppose que quand on lance une édition comme ça, on doit longuement hésiter. Alors, je rappelle que c'est un titre d'un merveilleux roman de Dashiell Hammett.
Vous faites bien. En fait, on n'a pas tellement hésité, puisque le titre appartenait déjà à Hervé Delouche. Voilà, et on a trouvé qu'il collait parfaitement, comme vous pouvez l'imaginer, à une maison de roman noir.
C'est vraiment une édition entièrement consacrée au roman noir?
Uniquement. Enfin, ce sera du roman noir au sens vraiment, au sens le plus large, hein, parce que on va s'autoriser assez largement des croisements avec le fantastique, avec l'anticipation sociale. Enfin, voilà, c'est pas fermé du tout, et on n'a pas de polar classique pour l'instant. On n'a pas encore de polar avec détective, flic et tout ça. Voilà.
Oui, c'est pour ça que j'ai bien précisé roman noir, qui est une acception beaucoup plus large de ce genre littéraire.
Voilà, c'est vraiment ce qu'on souhaitait faire. Il y a des maisons qui font très bien ça. Nous, on a voulu se placer un peu plus à la marge et chercher des choses un peu originales et pouvoir se permettre. Une production un peu plus large en même temps.
Alors, je cite ce que j'ai trouvé sur votre site internet, très intéressant d'ailleurs et très bien fichu.
Merci.
Donc, avec une nette orientation vers la critique sociale et la peinture des déroutes et des folies de l'époque. Quel que soit le lieu ou l'époque, récente de préférence. Vous allez quand même.
On va pas faire de polar historique.
Voilà.
C'était le sens de récente de préférence.
Alors, ce que j'ai lu aussi, et donc je ne l'ai pas encore dit, nouvelle maison d'édition, et je crois que c'est avec fierté, que vous intitulez bien nouvelle maison d'édition indépendante.
Oui.
Qu'est-ce que ça signifie exactement pour les néophytes que nous sommes?
Ça signifie qu'on ne dépend pas d'un grand groupe. On est diffusé évidemment par un gros diffuseur, on est diffusé par le CDE, c'est-à-dire Gallimard, mais on a deux comptes à rendre qu'à nous-mêmes, et on a un choix, on a une liberté totale de choix éditorial.
Ce qui est quand même
extrêmement satisfaisant.
J'imagine. Alors justement, ça me fait immédiatement poser la question suivante, qui est un petit peu, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais faut être quand même un peu fou comme on dit dans notre région, un peu fada pour se lancer dans une nouvelle maison d'édition.
Même
quand on adore les livres, même si c'est une responsabilité énorme.
À vrai dire, je n'en avais pas tellement conscience quand je me suis lancée là-dedans.
Donc il y a bien un grain de folie.
Il y a bien un grain de folie parce que j'ai quitté un poste qui était somme toute pas inintéressant dans une maison tout à fait honorable. Quand on rentre dans l'édition qui est pas un milieu très perméable, au bout d'un moment on a envie de publier ce qu'on aime. Donc j'ai considéré ça surtout comme une chance plus que comme un risque, même si effectivement c'est un risque. On n'est pas à l'abri de ni de mauvaises surprises, mais pas non plus à l'abri de bonnes surprises. Donc pourquoi
on va pas parler des mauvaises surprises parce qu'encore une fois on est là pour fêter la naissance et donc souhaiter une très longue vie à cette maison d'édition.
Merci bien.
Alors, ce qui est très très important dans une collection, quelle qu'elle soit, c'est la couverture. Alors, vous avez fait le choix d'une couverture avec une photo.
Oui.
Un bandeau jaune au-dessus, ce sera une constante.
Le bandeau, oui, mais la couleur va changer. Alors, la maquette, c'est Michel Bavret, qui est éditeur d'art, entre autres, qui l'a signé. Et les photos sont des photos inédites à chaque fois, et la plupart du temps faites spécialement pour le livre par Romain Slocombe.
Alors Romain Slocombe, on en parle juste 30 secondes parce que c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est un auteur de polar et un grand photographe.
Voilà, et puis un traducteur aussi. Il est en train de nous traduire un livre et je sais qu'il vient de sortir, on peut parler de la concurrence quand même, il vient de sortir deux livres, L'un au masque et un rat noir.
Alors, puisqu'on parle
beaucoup Romain aussi.
Pardon, excusez-moi. Puisqu'on parle de vos collaborateurs, j'ai vu aussi donc Hervé Delouche qui travaille chez Rivage et qui donc est commé dans le polar depuis des années.
Oui, il signale un festival aussi à Paris.
Voilà, et je signale pour ceux qui connaissent un peu qu'il est le nouveau président d'une très jolie association qui s'appelle 813, la plus grosse association de polar de France. Et j'ai vu aussi Jérôme Leroy, qui est un auteur science-fiction polar.
Science-fiction polar, oui, et puis littérature tout court, et qui travaille avec nous notamment comme conseiller littéraire.
C'est aussi un très bon professeur de lettres.
Et également, voilà. C'est évidemment un très beau professeur de lettres.
Non, mais je dis ça parce que des fois, on peut imaginer qu'un auteur n'a pas une objectivité.
Non.
Donc lui, il a une culture derrière.
Oui. Puis il a une vraie culture littéraire qui dépasse largement le polar. De même qu'Hervé Delouche, de même que l'ensemble des gens de l'équipe et Jérôme Leroy nous apporte des livres, des idées de réédition et puis va faire des préfaces. Enfin voilà, il travaille beaucoup avec Moisson Rouge. C'est une affaire qu'il suit depuis le début d'ailleurs, puisque la naissance de Moisson Rouge, en tout cas, c'était pas l'acte officiel, mais ça a commencé à Riron à la Semaine Noire en 2006, puisque c'est là que j'ai rencontré mes premiers auteurs. Voilà, où j'étais partie avec la casquette Hachette Littérature. Et puis quand on a monté Moisson Rouge, les auteurs ont eu le courage aussi, parce que c'est pas évident de partir comme ça dans une petite maison d'édition, de nous suivre.
Oui, effectivement, c'est pas évident, mais c'est un joli challenge.
Alors
justement, je commence à comprendre pourquoi le premier livre qui paraît est un livre espagnol.
Voilà.
Puisque si Moisson Rouge est né à Riron. Donc c'est un livre de José, excusez-moi la prononciation, Overero.
Voilà.
Qui s'appelle Des vies parallèles.
Ouais.
Et c'est publié par Marianne Milon.
Traduit par
Marianne Milon.
Remarquablement traduit, je dois dire, par Marianne Milon, qui est une traductrice Actes Sud, enfin qui traduit beaucoup de choses et qui, notamment Somoza, qui a fait un travail vraiment remarquable, enfin qui a bien restitué le. Moi, je suis pas hispanophone, mais je comprends un peu. Mais elle a restitué le style très sec et très particulier de l'auteur. Voilà. On salue beaucoup les traducteurs chez Moisson Rouge et on les soigne beaucoup parce que c'est extrêmement important et qu'ils sont souvent un peu négligés.
Tout à fait, oui. C'est, on essaye toujours de bien les citer, de parler de leur travail, parce que y a un grand pan de la littérature qui ne nous parviendrait pas si on avait d'excellents traducteurs, que cette littérature soit noire ou pas. C'est fantastique. Un premier livre d'éditeur, c'était un coup de cœur. C'était évident que ce serait celui-là.
Alors, c'était c'était une très jolie rencontre à Riron, puisque c'est, je vous raconterai rapidement l'anecdote, mais José Manuel Fajardo qui m'a dit il faut absolument que tu rencontres un type, il a jamais été publié en France, je comprends pas pourquoi, etc. Je l'ai vu arriver lui après, et puis José Manuel le présentait à la Semaine Noire, donc je suis allée voir la présentation de son dernier livre. Moi qui donc ne parle pas espagnol, j'ai tout compris. C'était un langage clair, intelligent, structuré, voilà. Et puis, on a bien sympathisé. J'ai fait lire le livre à un ami journaliste qui s'appelle Marc Fernandez, qui travaille avec nous aussi, et qui a trouvé ça formidable. La suite de l'histoire est assez belle aussi, puisque j'ai appelé Marianne Milon un peu au hasard, parce que l'auteur m'avait donné le nom de deux traducteurs. Et là, Marianne, je dis à Marianne, j'ai un auteur que j'aimerais vous proposer, voilà, un livre que j'aimerais vous faire traduire. Elle dit comment il s'appelle, je dis Obejero, et elle me dit mais c'est incroyable, j'essaye de le faire publier depuis des années, c'est un auteur que j'adore, j'essaye de le faire publier par différentes maisons depuis des années. Voilà, donc ça a été une rencontre assez géniale.
Alors je précise que ce roman a obtenu le prix Primavera 2005 et qu'il ne se passe pas du tout en Espagne, puisque tout se passe à Bruxelles.
Voilà, parce que lui-même vit à Bruxelles.
Voilà, il habite Bruxelles et en fait on va passer et on va partir dans ce livre, et c'est un sujet qui apparemment n'est pas beaucoup abordé, dans le passé colonial de la Belgique.
Exactement.
Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots un petit peu
Très rapidement. Alors, le livre c'est un roman noir, c'est très particulier, c'est extrêmement bien écrit, il tient beaucoup. Bon, il y a une intrigue qui est passionnante, que je vais raconter un petit peu, mais je me garderai bien de dévoiler la fin, parce qu'elle est...
Mais j'espère bien, non, mais je vous interdis.
Elle est insensée. En fait, le livre est raconté du point de vue de ce que c'est chacun des protagonistes. Donc, on retrouve, il y a des scènes qui se recoupent, et puis on apprend par petites bribes des choses que certains personnages ne savent pas. Enfin, c'est assez passionnant de ce point de vue-là. Donc, en fait, c'est une histoire assez classique, en fait, de chantage. Les anti-héros sont deux paumés, des chiffonniers qui ont un métier un peu étrange qui consiste à vider les maisons des morts à Bruxelles. Et il tombe sur une photo compromettante issue donc du passé colonial, sur laquelle on voit des blancs qui posent fièrement avec derrière eux des mains coupées de noir. Voilà, et derrière la photo, il y a des noms, dont celui du grand-père, je crois, d'un homme d'affaires richissime bruxellois, que les paumés en question ont décidé de faire chanter.
Voilà, on va pas en dire plus ça a été assez alléchant pour nous donner envie de plonger dedans.
Voilà, et on va passer. Il y a des personnages secondaires très intéressants. Enfin, bon, voilà. Moi, j'ai vraiment flashé sur les personnages et les personnages secondaires qui sont assez mystérieux et très, très, très attachants.
Oui, ce qui est important, parce que c'est un petit peu comme certains films des années 50, c'est-à-dire les second rôles sont toujours très importants dans les romans noirs.
Ouais.
Ça donne toujours une atmosphère et une ambiance intéressante.
Ouais, là il y a de beaux personnages, une femme, une mère célibataire un peu paumée, un mystérieux congolais, enfin voilà, un type au passé louche, enfin c'est vraiment...
Alors, le deuxième livre qui va paraître, une réédition.
Voilà, exactement. En fait, on en sort deux en même temps, dont un qui vient aussi de Rijon, qui est un Mexicain. Je peux en parler en deux minutes ou...
Mais bien sûr, tout à fait. Donc, c'est une saison de scorpions.
Voilà, alors là, c'est très différent. C'est un petit roman qui est très soutenu par Paco Taibo et qui a remporté le prix de la Semaine Noire 2006.
Paco Taibo, qui est l'organisateur, un grand écrivain mexicain et l'organisateur de Rerun.
Voilà, exactement. Et là, c'est l'histoire d'un tueur à gages qui décide de raccrocher, à qui on confie une dernière mission. Il refuse de l'accomplir et là, ses anciens confrères le poursuivent et commence une cavale complètement délirante à travers le Mexique. C'est très très drôle. Là aussi, il y a des personnages secondaires un peu à la Westlake. Voilà, là c'est un peu à la façon de Tarantino,
Road movie.
Voilà.
Alors, je vais préciser l'auteur, Bernardo Fernandez.
Voilà.
Et le traducteur, Claude de Fraissinet.
Voilà, exactement. Et alors, la réédition, bon, c'est important d'en parler parce que ça va faire partie aussi de la ligne de l'idée de départ même de Moisson Rouge, de mêler inédit et réédition. La première réédition n'a pas été choisie au hasard, évidemment. Moi, je voulais faire, mais hélas, j'ai été devancée dans ce projet. Je voulais rééditer La fille de nulle part de Frederick Brown, qui est l'un de mes romans préférés.
Quelle bonne idée.
Ben oui, oui, je sais. Oui, je sais. D'ailleurs, quelqu'un d'autre
l'a eu. Un des grands auteurs complètement méconnus actuellement.
Et que nous allons rééditer aussi, parce que je pense qu'il y a une génération là qui n'a pas forcément connu les rééditions qu'on avait faites 10-18, dans les années 90,
fait.
Avec des couvertures de Romain Slocum, déjà. D'ailleurs,
ah, je l'apprends.
Voilà, et moi, c'est un auteur que j'adore, et j'adore en particulier La fille de nulle part. Mais bon, à défaut de Fille de nulle part et même de Nuit du Jabberwock, puisque ça a été repris aussi, nous
Dame
avons...
Ned.
Mais nous allons sortir La bête de miséricorde, qu'on ne s'inquiète pas. Donc, à défaut de Fille de nulle part et tout ça, on a décidé, ça c'est Hervé Delouche qui m'a fait découvrir ce livre que je ne connaissais pas, de Robert Bloch, Le crépuscule des stars, traduit par Jean-Paul Gracias, qui est un très grand traducteur.
Alors, je m'excuse, c'est une retraduction ou c'est la traduction originale ?
Non, alors c'est la traduction originale, mais complètement révisée par Jean-Paul Gracias.
D'accord.
Pareil, lui aussi gravite autour de Moisson Rouge, puis c'est un ami. Il va nous apporter, d'où l'importance des traducteurs aussi, c'est-à-dire oui. Que lui va nous apporter aussi des textes. Donc ça, c'est donc lui, on va beaucoup travailler avec lui. Et il a complètement révisé sa traduction parce qu'elle était faite, il l'avait faite il y a 30 ans, que depuis il connaît Los Angeles, que
le vocabulaire a aussi un peu évolué.
Oui, mais il se trouve que la première traduction n'était pas datée.
D'accord.
Mais bon, que lui est un très bon traducteur et un grand maniaque,
ouais.
et qu'il voulait que ce soit parfait, quoi.
Alors, je précise que Robert Bloch, tout le monde le connaît sans le connaître,
oui.
Parce que c'est lui qui a écrit le livre dont est tiré Psychose.
Exactement.
De Hitchcock.
Voilà.
Et il dit, pour vous inciter à vous précipiter sur le crépuscule des
oui.
stars, Robert Bloch a dit à l'époque que le crépuscule des stars, s'il avait un de ses livres à choisir, ce serait celui-là. C'était
voilà.
Son livre préféré.
Exactement. Il disait même que s'il ne devait pas faire peur aux gens, ce serait des livres comme ça qu'il écrirait.
Voilà.
D'ailleurs, c'était le premier volume d'une trilogie qui n'a jamais été faite parce que ça a été un flop à l'époque pour la bonne raison qu'on n'attendait pas ce genre de livre de la part de Bloch.
Un
flop aux États-Unis en tout cas.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, les Américains.
Ouais, mais je sais qu'en France, là, quand je vais voir les libraires, j'ai tout de suite, ils me disent tout de suite, le Crépuscule des stars, c'est le meilleur bloc. Enfin, c'est un très grand bloc, en tout cas.
Alors, avant de conclure, une très jolie idée, je trouve, que vous avez eue, c'est que, au niveau des rééditions, vous allez faire souvent un commentaire
voilà.
ou une analyse de l'œuvre.
Voilà. Alors là, nous avons une préface de François Guérif, qui était Comment ?
C'est bien, parce que c'est un des grands spécialistes du roman noir américain en France.
Surtout, ça a été le premier éditeur du Crépuscule des stars, chez Red Label, en 78.
Comme il a publié aussi Frederick Brown.
Exactement. Donc c'est un très bon connaisseur de cette œuvre-là et puis de l'œuvre de Bloch en général. Donc l'idée de ces préfaces, c'est de remettre les livres dans le contexte de l'époque et puis de raconter un peu de façon plus anecdotique mais c'est pas inintéressant la façon dont le premier éditeur a eu l'idée de publier ce livre-là.
Bien, on va vous remercier, Judith Vernon, d'avoir passé ce moment avec nous. Dernière question, vous prévoyez combien de livres par an environ ?
On prévoit une dizaine de livres par an.
Voilà, bon, je rappellerai dans la deuxième partie d'émission les trois livres qui sortent au premier trimestre 2008. Voilà. Encore merci et beaucoup de chance à ce nouveau-né.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
18h30 sur Agora FM, bon début de soirée. Tout de suite, l'information régionale vous est développée par Vicky Bérardi.